Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
Exister sur la photo, telle est la mission des dirigeants européens réunis en urgence à Paris pour faire face à la volonté de Donald Trump de négocier seul la paix en Ukraine en tête à tête avec Vladimir Poutine. Mehdi Nemmouche a tout de suite pris la parole à l'ouverture de son procès pour nier avoir été le geôlier des quatre journalistes détenus pendant près d'un an en Syrie. On rejoindra Laura Martel à la Cour d'assises spéciale de Paris. Enfin, le gaz hilarant fait beaucoup de victimes en France. Des dizaines de cas graves sont recensés, surtout chez les jeunes. Une proposition de loi est débattue en ce moment. Reportage à suivre. Comment exister face à Donald Trump et Vladimir Poutine après la décision américaine de négocier en tête à tête avec le Kremlin? Sans eux, les dirigeants européens ont décidé de se réunir à Paris aujourd'hui et il y a urgence. Le sommet américano-russe pourrait avoir lieu dès demain à Riyad. Une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN entendent établir une réponse commune face aux défis lancés par Donald Trump, obtenir un cessez-le-feu en Ukraine en négociant seul avec son homologue russe, sans les Ukrainiens et sans les Européens. Le Royaume-Uni est représenté à Paris aux côtés des 27. Les discussions porteront notamment sur l'envoi de troupes en Ukraine pour garantir sa sécurité et celle de l'Europe. Muriel Paradon.
Face aux prises de positions américaines et à l'accélération sur le dossier ukrainien, les Européens doivent faire plus, mieux et de manière plus cohérente pour assurer leur sécurité. Déclaration de l'Élysée à quelques heures d'une réunion de plusieurs dirigeants européens à Paris. La volonté de Donald Trump de vouloir négocier directement avec la Russie la fin de la guerre en Ukraine a pris tout le monde de court. Les Ukrainiens n'arrêteront pas la guerre tant qu'ils n'auront pas les garanties d'une paix durable, a rétorqué le chef de la diplomatie française ce week-end, et ces garanties, seuls les Européens pourront les apporter. Reste à se mettre d'accord et à savoir jusqu'où les Européens peuvent aller. La réunion de ce lundi doit rassembler un certain nombre de pays et pourrait être élargie par la suite à d'autres. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais bien de la sécurité en Europe. La question de l'armement sera cruciale, alors que les budgets consacrés à la défense au sein des pays de l'UE sont pour l'instant limités.
Et l'unité recherchée est déjà mise à mal par la Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orban, soutien de Donald Trump, a critiqué des leaders européens frustrés et pro-guerre qui veulent empêcher un accord de paix en Ukraine. La Hongrie n'a pas été conviée à Paris. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra mercredi en Arabie Saoudite au lendemain donc des pourparlers russo-américains à Riyad. Sur le terrain, alors que la Russie poursuit son avancée dans l'est de l'Ukraine, Kiev s'est attaqué à un oléoduc reliant la mer Caspienne à la mer Noire. Une frappe de drone a visé une station de pompage, désormais hors service. L'oléoduc fonctionne à minima, il transporte principalement du pétrole du Kazakhstan. D'anciens otages avaient reconnu Mehdi Nemmouche après la tuerie du musée juif de Bruxelles. Pas de doute pour eux, il s'agissait de leur geôlier en Syrie. Laura Martel, vous suivez les débats pour nous devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Laura.
Bonjour.
Le procès s'est ouvert ce matin à Paris. Au total, 5 djihadistes sont poursuivis pour séquestration d'otages occidentaux, dont 4 journalistes français. Parmi les accusés, donc, Mehdi Nemmouche, et il nie avoir détenu les journalistes français Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres.
Oui, sur les 5 accusés, 2 sont absents car présumés morts. Dans le box, effectivement, Mehdi Nemmouche, cheveux courts, rasé de près, il discute avant l'ouverture, tout sourire avec son avocat. À l'autre extrémité du banc, un autre français et geôlier présumé, Abdelmalek Tanem, crâne rasé et longue barbe, accusé de séquestration et d'association de malfaiteurs terroristes. Le troisième homme est un Syrien, Kaysal Abdallah, est lui aussi poursuivi d'association de malfaiteurs terroristes, car seul Mehdi Nemmouche est accusé d'actes de torture et de barbarie.
Mais Mehdi Nemmouche avait gardé le silence lors de son procès en Belgique, tout comme face aux enquêteurs français. Mais là, il s'est donc exprimé ce matin.
Oui, il a tenu à faire une courte déclaration. Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ou de quelque otage que ce soit en Syrie. J'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux forces de Bachar al-Assad. Une prise de parole intéressante, hein, car la majorité des partis civils redoutaient un mur de silence. Alors même si cela ne présage pas qu'il continue à parler, d'autant plus avec ce positionnement et cette dénégation catégorique. Mais quelle que soit son attitude, hein, les otages sont eux déterminés à témoigner des horreurs qu'ils ont vécues. Mais souligné encore le journaliste Nicolas Hénin ce matin, il n'est pas question de se focaliser sur Medine et Mouche, d'abord parce qu'il n'est pas le seul accusé, mais aussi, disait le journaliste, il faut absolument raconter de l'intérieur les rouages de ce qu'il appelle la matrice du groupe État islamique.
Et qu'est-ce qu'il entend par là ?
Et ben en fait, ces faits remontent à 2013-2014 et ils montrent bien l'évolution de la stratégie du groupe terroriste pour cibler les Occidentaux, un groupe qui s'appelle encore l'État islamique en Irak et au Levant au moment des enlèvements et qui va se structurer pour se proclamer État islamique en juin 2014, 2 mois après la libération des Français. Et avec le recul, en fait, on voit bien au travers des exactions sur le sol syrien cette matrice des projections à venir de djihadistes en Europe et l'importance des protagonistes de la filière franco-belge. Je m'explique. Medine Mouche, le français geôlier présumé, a été le premier à revenir de Syrie pour frapper le musée juif de Bruxelles. Et puis les ex-otages avaient reconnu aussi un belgo-marocain, Najim Lachraoui, comme l'un des geôliers. Lui, s'il n'est pas là aujourd'hui au procès, eh bien c'est qu'il a été l'artificier des attentats du 13 novembre 2015 en France, avant de devenir l'un des kamikazes des attentats de Bruxelles en mars 2016. Or, un homme a été condamné à perpétuité et par la France et par la Belgique pour justement avoir commandité ces deux attaques. Et c'est le Belge Oussama Attar que l'on retrouve. C'est l'un des 5 accusés du procès, absent car présumé mort, tout comme le 5e, le français Salim Ben Ghanem, qui lui était un proche de Chérif Kouachi, l'un des terroristes des attentats, cette fois de janvier 2015.
Laura Martel, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Après Jérusalem, Marc Rubio est attendu à Riyad aujourd'hui. Le chef de la diplomatie américaine a affiché un front uni avec le premier ministre israélien, avec les mêmes cibles, le Hamas palestinien et l'Iran. Benjamin Netanyahou doit, lui, réunir son cabinet pour aborder la nouvelle phase de cessez-le-feu à Gaza. En France, le gaz hilarant est dans le viseur des parlementaires. La Direction générale de la Santé a recensé des dizaines de cas graves après inhalation. Le protoxyde d'azote est la deuxième substance la plus consommée chez les 13-25 ans. Il est déjà interdit à la vente aux mineurs dans certains lieux. Une proposition de loi portée par le groupe LFI veut aller plus loin, renforcer la prévention et limiter encore son accès. Écoutez le reportage de Marie Casadebé et de Lisa Barrel-Frémaux.
Paralysie des jambes, paralysie des mains. Quand je fermais les yeux, je suis tombé. Une infection au poumon, j'en ai perdu un.
Sofiane a 22 ans, il était plombier. À cause de sa consommation de gaz hilarant, il a dû arrêter son métier.
La première fois que j'en ai pris, c'était pendant le confinement, en 2020 je crois. Je devais avoir 19 ans et après j'ai continué. C'était quotidien. En fait, on pouvait ressentir une sensation de joie. On oubliait les problèmes et... Si on arrête le ballon, au bout de 10 secondes, l'effet il se dissipe. On avait envie d'en refaire, en fait.
Il y a un an, environ, il est hospitalisé. Il n'arrive plus à respirer. Et pour cause, un de ses poumons ne fonctionne plus. Il perd aussi l'usage de ses jambes. Encore aujourd'hui, il suit un programme de rééducation.
Je suis resté en fauteuil roulant 6 mois. C'est comme si nos muscles étaient retournés à zéro. J'ai récupéré mes jambes avec le temps et à l'heure d'aujourd'hui, je travaille toujours sur la force musculaire.
Le protoxyde d'azote est le plus souvent utilisé par des professionnels dans le milieu médical, comme anesthésiant ou encore dans l'agroalimentaire. Les jeunes le consomment pour ses effets euphorisants. Ils percent les cartouches, remplissent un ballon avec et l'inhalent. Françoise Cochet connaît bien les effets de ce gaz sur la santé. Elle est présidente de l'association APEAS qui lutte contre les jeux dangereux.
Le problème, c'est que ces gaz traversent la paroi des alvéoles pulmonaires, passent dans le sang et arrivent instantanément au niveau cérébral. Le danger majeur de toutes ces pratiques d'inspiration de n'importe quel autre gaz que l'air, c'est le risque d'arrêt cardiaque.
Et le consommateur peut rapidement devenir dépendant. C'est ce qui est arrivé à Sofiane.
Dès la première consommation, on devient addict. Dès qu'on commence à ressentir les effets, c'est fini, après on a envie d'en refaire. Par mois, des fois je pouvais utiliser 600 euros. Ça dépendait de mon budget à moi, mais si j'avais l'argent pour consommer, j'achetais. J'avais pas de limite.
Aujourd'hui, Sofiane a arrêté d'en consommer et témoigne. Pour lui, limiter l'accès du protoxyde d'azote aux professionnels est une bonne chose. Mais pour Françoise Cochet, ce n'est pas la solution.
Pour nous, la seule façon de contrer ces accidents, c'est la prévention. Donc la prévention d'une part des adultes, pour les informer, les parents mais aussi les professionnels. Et puis, bien évidemment, la prévention auprès des élèves.
Il y a une dizaine de jours, les députés ont adopté cette proposition de loi. Prochainement, ce sera le Sénat qui se prononcera sur le texte.
C'était le reportage de Marie Casadebé et de Lisa Barrel-Frémaux. Restez à l'écoute des RFI.